Le journal de Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, vous savez quoi? Le débat, étape obligatoire de toute présidentielle depuis 1974. Ce soir l'affiche, c'est donc Macron-Le Pen, comme il y a 5 ans. Comment comptent-ils tirer leur épingle du jeu? Éviter les erreurs, dérouler leur programme, faire basculer les indécis? On va le voir dans un instant. Élisez-moi Premier ministre. Ça c'est l'appel de Jean-Luc Mélenchon pour les législatives. Des négociations sont en cours avec les Verts et les communistes. Le Parti Socialiste veut s'y inviter, mais pas tous les socialistes. Dans ce journal aussi, l'Ukraine et l'appel au secours d'un officier de Mariupol. Nous vivons peut-être nos dernières heures. Sortez-nous de là, demande-t-il à la communauté internationale. Alors que la Russie concentre sa puissance de feu dans l'Est, ce sera le thème du grand entretien, Nicolas.
Avec deux invités, la spécialiste de la Russie et de l'Ukraine, politologue au CNRS Marie Mindras, et l'ancien colonel des troupes de marine, historien de la guerre Michel Goya. À notre micro avec Yael Gauze tout à l'heure. Et toutes vos questions, amis auditeurs, 01 45 24 7000 et l'application de France Inter.
Plus de 7% d'inflation en Allemagne, c'est bien pire qu'en France. Dans ce journal, on ira donc tâter le pouls des consommateurs berlinois. Et puis on terminera au champ avec un agriculteur qui dissémine des poils de chien sur ses cultures pour dissuader les sangliers de les piétiner. C'est facile, c'est pas cher et ça marche.
France Inter.
C'est un match sans vainqueur immédiat. Pour savoir qui gagne, il faut attendre le dimanche suivant, ce qui n'empêche pas d'être fébrile quand on monte sur le ring et de compter les points. On arrête là la métaphore sportive qui s'impose tous les 5 ans pour parler du débat de l'entre-deux tours. Emmanuel Macron versus Marine Le Pen, comme en 2017 ce soir à partir de 21h. Et pour poser les enjeux de ce rite électoral, nous sommes avec Élodie Forêt et Simon Le Baron. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Élodie, vous qui suivez la campagne de Marine Le Pen. Simon, vous suivez celle d'Emmanuel Macron. Quels sont les écueils, les pièges à éviter pour l'un et pour l'autre ?
Alors pour Marine Le Pen, ce débat, c'est la dernière carte à abattre pour en finir avec le procès en incompétence. Le défi, c'est de paraître crédible, que les gens se disent à la fin « La France, avec Marine Le Pen, ne partira pas en lambeaux », dit un cadre. Pour ça, gare à l'agressivité face aux attaques, il faudra rester factuel, dit un élu. Méfiance notamment sur le voile, sujet que la candidate a tenté de déminer ces tout derniers jours, mais sur lequel la position reste floue.
Du côté d'Emmanuel Macron, je dirais qu'il y a deux difficultés principales. La première, c'est que contrairement à son adversaire, il a désormais un bilan à défendre, exercice dont on sort rarement vainqueur. Et la deuxième, eh bien, c'est le risque de paraître suffisant. Ses proches sont convaincus que le sérieux, la compétence sont de son côté, mais ils savent aussi qu'après un quinquennat de petites phrases, la moindre impression d'arrogance sera forcément exploitée par son adversaire.
Voilà pour la défense, on s'autodiscipline lors d'un débat et on attaque aussi, sur quel angle ce soir ?
Alors Simon le disait, Emmanuel Macron a désormais un bilan, les 600 milliards de dettes en plus. Quand Emmanuel Macron a un problème, il fait un chèque, devrait donc marteler la candidate. Sur les retraites, Marine Le Pen dénoncera le manque de colonne vertébrale du président sortant. L'équipe de Marine Le Pen a aussi regardé attentivement le dernier discours d'Emmanuel Macron à Marseille. Un conseiller me confie à ses accusations mensongères de climato-scepticisme, nous répondrons, verdissement artificiel de sa campagne.
Les angles d'attaque du président sortant ont on peut les résumer là aussi en deux points. Danger et manque de sérieux. Le danger, c'est la sortie de l'Union européenne et des accords de Paris sur le climat. Selon Emmanuel Macron, c'est le projet caché de Marine Le Pen. Il y a aussi la proximité avec Vladimir Poutine et les menaces sur l'état de droit. Et puis le manque de sérieux du point de vue du candidat, eh bien c'est un programme mensonger et non financé sur la retraite à 62 ans ou sur la baisse, voire la suppression de la TVA.
Simon Le Baron, Élodie Forêt, pour l'acmé de cette campagne électorale, on vous retrouvera demain matin pour commenter le match. 16,5 millions de Français l'avaient regardé il y a 5 ans. Et vous, qu'est-ce que vous faites ce soir ? Richard Vivion a posé la question sur le marché d'Annecy.
David, viens parler au monsieur politique.
Et David, il est là, juste en face, il vend des fruits et légumes.
Ouais, il y a le débat.
Oui, le débat Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Et alors, est-ce que vous allez le suivre ?
Bah, ouais, je vais le regarder. Mais Marine Le Pen, bon, c'est pas ma cam. Emmanuel Macron, c'était pas mes choix de départ, quoi qu'il arrive. Donc, politique me fatigue un peu.
Un peu plus loin sur le marché d'Annecy, il y a un vendeur de nougat. Bonjour, votre prénom ?
Édouard.
Bon, est-ce qu'on parle politique sur le marché ?
On parle que de ça en ce moment. C'est un truc de ouf. J'irai quand même voter, je pense. Mais je regarderai pas le débat.
Ils ont même des carottes, c'est pas merveilleux.
Allez, l'étale d'à côté, c'est celle d'un maraîcher.
C'est Laurent.
Alors vous m'avez dit que vous suivrez le débat. Hein.
Oui, bien sûr.
Vous serez attentif à quel sujet ?
Il faudrait qu'il précise un peu l'histoire des retraites, après pouvoir d'achat, parce que tous les gens au marché, ma foi, en parlent. Hein. Voilà.
Et Isabelle, qui est en train de monter son stand, elle vend essentiellement des fruits secs. Elle aussi a décidé de suivre le débat, mais allez.
Moi, je m'attends à quelque chose d'ennuyeux, en fait. Mais j'en ai jamais loupé depuis que je suis majeure, c'est-à-dire il y a quand même pas mal de temps.
Le débat peut vous faire changer d'avis ou pas ?
La seule chose qui me ferait changer d'avis serait une grosse faute, mais j'y crois pas trop, hein, quand même. Mais je vais regarder, on verra bien, jusqu'au dernier moment. Les jeux sont jamais faits. Hein.
Richard Vivion, France Bleu, Pays de Savoie, sur le marché d'Annecy. Les jeux ne sont pas faits, même si les dynamiques ne changent pas. Après un débat, celui d'il y a 5 ans, selon les estimations, n'a fait bouger que 3% des voix.
Et sur le fond, il est 8h06, les candidats commenceront donc par parler pouvoir d'achat.
Ainsi, on a décidé le tirage au sort, parce que les deux parties n'étaient pas d'accord. Ensuite, viendra l'international, puis dans le désordre, la sécurité, la jeunesse, l'environnement ou encore le modèle social. Ce sera le moment de parler retraite, dépendance et santé. Et qu'y a-t-il dans le programme des candidats sur les soins après 2 ans de Covid ? Bonjour Victor Dolande.
Bonjour.
L'hôpital public est en souffrance. Comment Emmanuel Macron et Marine Le Pen comptent-ils le soigner ?
Emmanuel Macron veut lancer un grand plan de recrutement d'infirmiers et d'aides-soignants. Après avoir créé 7000 places supplémentaires dans les écoles d'infirmiers ces 2 dernières années, le président candidat en promet 6000 de plus pendant son prochain quinquennat. Il veut aussi mieux rémunérer les gardes et le travail des soignants le week-end. De son côté, Marine Le Pen ouvrira 10 000 places supplémentaires dans les écoles d'infirmiers si elle est élue. Et elle mettra 2 milliards d'euros sur la table en 5 ans pour revaloriser les salaires du personnel soignant. Enfin, elle propose d'instaurer un moratoire sur la suppression des lits dans les hôpitaux.
Deuxième enjeu, Victor, la lutte contre les déserts médicaux.
Oui, Marine Le Pen veut miser sur les incitations financières pour les médecins qui s'installeraient dans des zones en tension. Elle veut aussi développer la téléconsultation. Quant à Emmanuel Macron, il propose une 4e année d'internat dans les zones rurales pour les apprentis médecins. Pour soulager les praticiens dans ces déserts médicaux, il imagine aussi la possibilité pour les infirmiers et les pharmaciens de pratiquer davantage d'actes simples.
Enfin, le troisième gros chantier, Victor, c'est la dépendance des personnes âgées. Alors, quelle proposition ?
Emmanuel Macron prévoit de recruter 50 000 infirmiers et aides-soignants en plus dans les EHPAD d'ici 2027, soit 25% de plus qu'aujourd'hui. Marine Le Pen, elle, promet la présence d'un médecin coordinateur et d'une infirmière 24 heures sur 24 dans chaque EHPAD. Ça fait tout de même moins de personnel que dans le programme du président sortant. Ce dernier veut aussi faire en sorte que les personnes âgées qui le peuvent restent chez elles grâce à une aide financière pour les travaux d'adaptation dans leur domicile.
Victor Dolande dans le comparateur du 8h. Et après l'élection dimanche, le troisième tour sur lequel table le troisième homme. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre, dit Jean-Luc Mélenchon sur BFM TV, en votant pour nous et nos alliés aux législatives du mois de juin. C'est donc une cohabitation qu'il veut imposer aux futurs vainqueurs en discutant avec les Verts, les communistes et le NPA de Philippe Poutou. Les négociations sont en cours. En revanche, pas question pour l'instant de parler aux socialistes, trop critiques pendant la campagne, sauf que le PS a adopté une motion cette nuit pour discuter avec la gauche en général et la France insoumise en particulier en vue des législatives. Position qui ne fait pas l'unanimité chez les socialistes. Antoine Gignot.
Discuter avec l'ensemble des forces de gauche, y compris donc la France insoumise. Voilà le contenu de la motion adoptée après des débats agités par 160 voix contre 75. C'est la meilleure solution pour sortir de l'ornière, explique Pierre Jouvet, le porte-parole du PS.
Même si l'union est toujours un combat à gauche, je suis certain que les voies du dialogue et les voies du rassemblement, elles sont possibles parce que notre intérêt, il n'est pas dans l'intérêt personnel des uns ou des autres ou des intérêts de parti, il est dans l'intérêt des Françaises et des Français. La gauche, c'est d'abord des convergences.
Mais les convergences, beaucoup de socialistes ont du mal à les voir. Cette motion, c'est une mauvaise bouée de sauvetage. On l'attrape parce qu'on a peur de disparaître, lance un député. Mais la France insoumise va nous absorber. Plusieurs autres parlent de diktat. Le problème, explique le sénateur Rachid Temal, c'est le risque de perte d'identité.
C'est ça qui est aujourd'hui la vraie question. Moi, je ne considère pas que le programme de Jean-Luc Mélenchon doit être le programme aujourd'hui de la gauche. L'alliance électorale, elle a de sens que si vous avez un projet.
Face à ces réticences, plusieurs cadres insistent sur l'importance de conserver les particularités et de définir les priorités avant de valider les candidatures dans chaque circonscription. Compte tenu du calendrier et des délais nécessaires pour les législatives, les socialistes ont moins de 10 jours pour se réinventer.
Antoine Gignot.
France Inter, il est 8h10, c'est un appel désespéré.
Lancé par un officier officiers ukrainiens retranchés dans le complexe sidérurgique Azovstal à Marioupol. C'est là que se concentrent les derniers combats contre les Russes. Il implore la communauté internationale d'exfiltrer les combattants assiégés vers l'étranger.
C'est notre appel au monde. Ça pourrait bien être le dernier appel de notre vie. Nous vivons peut-être nos derniers jours, voire nos dernières heures. L'ennemi est 10 fois plus nombreux que nous. Nous ne défendons qu'un seul élément, l'usine Azovstal, où en plus du personnel militaire, il y a aussi des civils qui sont des victimes de cette guerre.
Voilà l'appel à l'aide de Sergueï Volina, commandant de la 36e brigade de la marine nationale ukrainienne. Moscou propose une nouvelle fois aux combattants ukrainiens de Marioupol de déposer les armes à partir de 14h aujourd'hui. Et à l'instant, Kiev annonce un accord pour un couloir d'évacuation de civils depuis Marioupol. Marioupol et le Donbass sous le feu des Russes qui disent avoir mené des dizaines de frappes dans l'Est hier. Ce qui n'entame pas la détermination des volontaires civils engagés auprès des militaires ukrainiens. Comme cet homme qu'a rencontré Faustine Kelmel à Kiev. Il repart ce matin vers Kharkiv.
Il entre dans la pièce treillis militaire, le regard fatigué. Dmytro profite de ses dernières heures de repos dans la capitale ukrainienne. Irpin, Romanivka, Kharkiv, celui qui est dans le civil conducteur de camion, énumère les villes qu'il a défendues. Après quelques heures de formation, il a pris les armes et repartir se battre à l'Est est, dit-il, une nécessité.
Nous avons toujours été et nous serons toujours une nation libre. Et la liberté s'acquiert toujours dans le sang. Personne ne peut simplement recevoir la liberté. Il faut la mériter, se battre pour elle. C'est exactement ce que nous faisons.
Le sang a déjà coulé dans le bataillon Karpatska Sich, une dizaine de décès depuis fin février, le dernier il y a 3 jours.
Si l'un de nous est blessé, tu dois appliquer un bandage, faire un garrot pour stopper l'hémorragie et l'emmener au plus vite à l'hôpital pour lui sauver la vie. S'il est mort, tu l'évacues pour que sa famille puisse l'enterrer dignement.
Cette possibilité de la mort, elle n'effraie pas Dmytro, certains de la victoire au Donbass.
Poutine met toutes ses forces dans cette bataille pour détruire notre pays, repousser nos lignes. Mais cela n'arrivera pas. Nous vaincrons, évidemment. Nous nous soulèverons et l'Ukraine sera libre.
Dmytro remercie pour l'aide internationale et s'en va. Le départ est dans quelques heures.
Faustine Kelmel et Jérémy Thuil, envoyés spéciaux de France Inter en Ukraine. Et désormais, en plus des canons et des pièces d'artillerie livrées à l'armée ukrainienne, il y a aussi des avions, comme le réclamait Kiev depuis le début de la guerre. Avions de chasse et pièces détachées sont arrivées, annonce le Pentagone. Sans doute des MiG-29 que les pilotes ukrainiens savent utiliser. La guerre en Ukraine qui pèse sur les portefeuilles. L'inflation en Europe au plus haut depuis 40 ans, plus 4,5% en France au mois de mars. Mais c'est bien pire en Allemagne, où les prix ont augmenté de plus de 7%. Ça fait mal. Reportage à Berlin, signé Ludovic Piétenu.
Un refrain devenu viral sur les réseaux sociaux. C'est cher, en Allemagne tout est cher. Les internautes allemands filment leurs achats rationnés de beurre, d'huile de cuisson et de papier toilette, car en plus d'être plus chers, ils viennent à manquer dans les rayons. Ça me rappelle la pandémie de voir des endroits entièrement vides, dit cette cliente. Par manque d'huile, par exemple, le vendeur de sandwich installé sur le parking de ce supermarché a enlevé les frites de sa carte. Bientôt, même le célèbre Döner coûtera plus cher, autour de 5 euros, jusqu'à 7,30 euros. Le passage en caisse, c'est l'heure de vérité. Je fais toujours des courses autour de 50 euros, et aujourd'hui, 71 euros, constate Marie, qui n'a pas l'impression d'avoir acheté autre chose que d'habitude. Officiellement, les prix des huiles alimentaires ont augmenté de 17%, le prix des légumes frais plus 15%. Même constat donc pour Tania, qui doit nourrir 4 autres personnes à la maison.
Aujourd'hui, j'ai payé plus de 80 euros, alors qu'il y a 2 ans, ça me coûtait environ 50 euros. Et j'ai l'impression de ne pas avoir grand-chose. C'est certain, ça ne me fera pas la semaine.
Elle s'interroge comment s'en sortent ceux qui gagnent moins. L'Allemagne n'a jamais autant compté de pauvres et les bénéficiaires de la banque alimentaire ont atteint un record ces dernières semaines. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
Moins d'abonnés chez Netflix, c'est la première fois depuis 10 ans, à cause de la guerre en Ukraine. Là aussi, puisque le service est suspendu en Russie. Et à cause de ceux qui ne payent pas, Netflix estime que 100 millions de foyers utilisent sa plateforme en récupérant les codes des vrais abonnés. L'action Netflix a perdu un quart de sa valeur à la Bourse de New York hier soir. En France, c'est le Sud-Ouest qui perd une partie de sa richesse. Les canards et les oies abattus pour cause de grippe aviaire. 37 foyers détectés depuis 15 jours en Dordogne et des millions de volailles abattues dans toute la France depuis le début de l'année. Eux, ce sont les sangliers qui qu'ils aimeraient voir disparaître. Les agriculteurs, dont les cultures sont piétinées et retournées par ces animaux fouisseurs, eh bien l'un d'entre eux vient de trouver une solution indolore, gratuite et écologique pour s'en débarrasser. Depuis 3 ans, il disperse des poils de chien dans ses champs de Mayenne et ça marche, Julie Mille.
Chaque année, Samuel Riblier avait l'habitude de semer 3 fois ses champs de maïs. À chaque fois, les sangliers venaient manger ses semis. Mais depuis qu'il a eu cette idée, c'est presque magique. Les sangliers ne viennent plus.
Vu que les sangliers ont un odorat assez prononcé, on va dire, le fait de sentir les poils de chien, donc ça leur indique une présence éventuelle de chien, donc ça les repousse. Et donc, ils ne fouillent plus dans les champs et ne mangent plus les graines de maïs. On voit des traces de pattes le long du champ, mais ils ne pénètrent plus à l'intérieur de la parcelle. C'est un petit peu ma solution miracle.
Une solution écologique et surtout économique pour cet agriculteur. Ses poils de chien, il va les chercher chez sa belle-sœur, Élodie Royer. Elle est toiletteuse à Mayenne et ça l'arrange bien.
Quand il me dit, tu m'en mets de côté, hop, donc je lui mets 2 bons sacs de 50 litres de côté. Et puis il vient les chercher, puis lui il les étend après dans ses champs. Moi le poil il va dans les ordures ménagères parce que ça ne se trie pas, ça se met pas au compost ou quoi que ce soit. Donc non, c'est simple. Hein. Donc ouais, s'il y a des agriculteurs mayennais qui en veulent, il n'y a pas de souci, enfin, faut qu'ils m'appellent avant. Moi je mets ça de côté et je leur dis quand est-ce que c'est possible de venir les chercher. Je le donne avec plaisir.
Elle invite même les particuliers à venir en récupérer chez elle pour éloigner les lapins et autres nuisibles des jardins.
Juliette Mille, France Bleu Mayenne pour cette joint venture toiletteur agriculteur.
Merci Florence Paracuelos, la météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, Euromaster est partout au service de votre sécurité.
L'automne dans le sud, dès ce matin, Marie-Pierre.
Eh oui, on y va, Nicolas, avec un ciel bien chargé, de l'Aquitaine à l'Occitanie, donnant des pluies soutenues avec cette dépression qui remonte toujours d'Espagne. Et même, on a de la neige à partir de 1100 mètres sur l'Oise et Pyrénées. Les nuages gagnent ce matin la Provence, alors qu'au nord de la Loire, le ciel s'ennuage un peu. Mais le soleil résiste quand même au nord de la Seine et sur les régions de l'Est. D'ailleurs, c'est dans le nord-est qu'il fait le plus frais ce matin. On est plutôt souvent autour des 0, comme en Haute-Marne, à Aubervilliers. Il fait 4 à Bourges, 6 à Metz, 8 à Lorient, 9 à Paris, à Lille, Bordeaux, à Jean-Calvi et 15 à Menton.
Et le pays restera coupé en deux cet après-midi.
Et oui, avec du soleil au nord et sur le nord-est, alors que les pluies seront de plus en plus soutenues sur la moitié sud, des pluies devenant même orageuses du bassin aquitain au massif central, aux Alpes, avec de la neige aussi à 2000 mètres d'altitude, et le vent d'est qui va se lever en Méditerranée, et l'instabilité qui va arriver en Corse. Entre la Loire et la Seine, eh bien le ciel restera variable sur des températures qui vont remonter au nord jusqu'à 21 à Paris. Au plus bas, il fera 11 à Tarascon sur Ariège, 15 à Saint-Lunaire en Ille-et-Vilaine, comme à Aurillac et à Bordeaux. Vous aurez 17 à Limoges, 18 au Havre comme à Montpellier, 19 à Strasbourg et à Nantes, 20 à Bourges, 21 à Marseille et 22 à Ajaccio.
Merci Marie-Pierre, merci à vous d'écouter Inter. 8h18.